Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour à tous.
On commence, une fois n'est pas coutume, avec de la poésie.
Nous ne reviendrons pas à ce qui était, mais nous nous dirigerons vers ce qui sera. Un pays meurtri mais entier, bienveillant et audacieux, féroce et libre. Quelques lignes signées Amanda Gorman, jeune poétesse noire américaine de 22 ans. Vous l'avez découverte, impressionnante de charisme lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden à Washington. Et vous la verrez la nuit prochaine dans cet autre événement fédérateur de la société américaine, le Super Bowl. Et c'est une première, nous dit le JDD. Juste avant la finale, Amanda Gorman prendra la parole, un texte dédié aux héros de la pandémie. Amanda Gorman, que l'on peut voir aussi en couverture de Time, le magazine, entretient avec une autre femme, Michelle Obama. On sent de l'admiration entre les deux. Elles évoquent la renaissance artistique noire, ce foisonnement créatif, la poésie qui rythme souvent les battements de cœur des mouvements pour le changement, raconte Amanda Gorman. Elle cite les slogans de Black Lives Matter, ils nous ont enterrés, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Également le discours historique et poétique de Martin Luther King, I have a dream. Ne jamais sous-estimer, dit-elle, le pouvoir de l'art comme langage pour le peuple.
Et c'est l'histoire avec un grand H ce matin dans nos journaux.
L'histoire de monsieur Eric Schwamm, décédé le jour de Noël à l'âge de 90 ans et qui a légué sa fortune, plus de 2 millions d'euros, à une commune, Chambon-sur-Lignon. Le Parisien aujourd'hui en France est parti sur les traces de cet homme né le 21 octobre 1930 à Vienne, en Autriche. Enfant juif pendant la guerre, recueilli comme tant d'autres dans ce village, le Chambon, qui n'est pas n'importe quel endroit sur Terre, vous dit le journal. Israël l'a fait juste parmi les nations. Peu de temps avant sa mort, Eric Schwamm avait modifié son testament en signe de remerciement et sans jamais faire de bruit. Le personnage était discret, sérieux, modeste. « Je ne savais rien de son passé », dit un ancien collègue. Ne jamais oublier, nous dirons la même chose de Samuel Paty, le professeur de Conflans-Sainte-Honorine assassiné. Sa sœur prend la parole pour la première fois dans le JDD. Un prix, Samuel Paty, vient d'être créé. Il récompensera les travaux de collégiens et de leurs enseignants. L'important pour mon frère n'était pas de dicter aux élèves ce qu'ils doivent penser, mais de leur donner les outils pour réfléchir et grandir. Ce prix, c'est donner un sens à l'absurde. Lui aussi avait pris la parole après la mort de Samuel Paty. Lui aussi, au nom des principes républicains, lui aussi est désormais menacé. Le site du Point vous parle de Didier Lemaire, prof de philo à Trappes et placé sous escorte policière. Près de 20 ans qu'il travaille là-bas, en banlieue parisienne. Désormais, il veut partir. Chaque fois que je monte dans la voiture, je vérifie que mes portières sont bien fermées. Je ne veux pas vivre dans la peur, dit-il. Il dénonce la présence islamiste. On la retrouve aussi dans cette longue enquête du JDD. Comment Erdogan infiltre la France, le président turc et son parti conservateur, l'AKP, ne jamais oublier.
Et puisqu'on parle d'histoire, Jean-Philippe, eh bien vous nous dites qu'elle peut aussi, l'histoire, se raconter en bande dessinée.
Oui, alors l'histoire toute récente, contemporaine, mais qui nous paraît si loin aujourd'hui. Le patient zéro à l'origine du coronavirus en France, c'est le titre de cette BD. Elle sort mercredi prochain aux éditions Glénat, signée Nicobi et Renaud Saint-Cricq. Elle se base sur le travail de deux journalistes du Monde, Raphaël Baquet et Ariane Chemin. Une enquête détaillée à l'époque où nous n'étions pas encore 66 millions d'épidémiologistes. Il y a presque un an, une éternité, ça avait commencé dans l'Oise et on oublie à quel point nous ne savions rien, à quel point nous avons tâtonné, tardé, raté. Le tout raconté à hauteur d'hommes, de femmes, dans les familles, les hôpitaux, chez les politiques. Le trait est simple, le récit passionnant. Bon, n'empêche que ce matin, nous avons toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce nouveau confinement. Dans le JDD, l'inquiétude du professeur Arnaud Fontanet, désormais c'est le variant anglais qui donne le la, ce variant qui deviendra majoritaire au mois de mars. Le scientifique met en garde, on s'est habitué à ce fameux plateau élevé, on l'a banalisé. Moins d'arrogance, plus de compétences, ajoute Étienne Klein, le physicien dans ce beau numéro du 1, l'hebdo, qui nous appelle à davantage de modestie, d'humilité, et pose une question, toujours la même, sans réponse, c'est quand la fin ? Et puisqu'on a parlé d'histoire ce matin, bien figurez-vous que j'ai appris un nouveau mot dans la presse et même une passion, celle des reconstituteurs, qui, comme leur nom l'indique, reconstituent, ressuscitent le passé. La belle revue Sphère leur consacre un numéro entier à ceux qui s'habillent en fantassin, Napoléon, chevalier à côte de maille, l'obsession de la véracité, la chasse aux anachronismes. Les soldats de 14-18 ont même trouvé la parade pour se coltiner les masques sanitaires. Oui, ils les dissimulent sous d'autres masques. Façon gueule cassée. Vous savez, ces prothèses de l'époque pour les grands blessés. Bref, transmettre l'histoire coûte que coûte et ne jamais oublier, décidément.
Décidément. Et les reconstituteurs, ça pourrait faire une prochaine chronique de Christophe Bourseiller.
Ça va nous l'énerver encore.
Merci Jean-Philippe Ballas.